Bouge ton algo avec Moukino.
Salut à toutes et tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. Vous le savez, ici chez Fréquence Mistral, on aime la musique et la musique aime Fréquence Mistral. Mais on a du mal à sortir de nos algorithmes puisque, bon voilà, on est tous dans nos petites bulles. Moi, je découvre plus grand chose puisque l'algorithme choisit pour moi ce que je vais écouter. Ça me va très bien, mais de temps en temps, j'ai envie de sortir de cette bulle, de découvrir des nouveaux genres, des nouveaux sons. Et dans ces moments-là, j'écoute Bouge ton algo et je vais voir mon ami Moukino qui me fait l'algorithme humain, mon algorithme de chair et de sang qui vient me faire découvrir des nouveaux styles, des nouvelles musiques, des nouveaux genres. Et je suis très heureux d'inaugurer cette année 2026 avec lui. Bonjour Moukino.
Salut Yacine.
Ouais, c'est de plus en plus bavard mes intros.
Voilà, tu t'es donné de fou.
Tu vas bien?
Ouais, ça va, impeccable.
Bah, dis-moi de quoi on va parler aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, on va parler d'un gros morceau. Et pour m'accompagner, j'avais besoin d'une personne qui soit en adéquation avec le sujet. Benoît, ici présent, est de cette espèce rare que l'on appelle un bon rocker. Il est beau, il a une belle barbe, des beaux tatouages sur le bras, old school, un peu biker. Il a un petit bit de bière qui montre qu'il n'a pas peur d'une pinte ou deux. On est sur l'algorithme humain du rock parfait. Quoi de mieux que de l'avoir comme acolyte pour notre émission aujourd'hui, qui va faire cracher les amplis. On y va, let's go, on va se présenter avec un petit son de Deftones pour mettre un petit peu les papilles en éveil, c'est parti. We'll be right back. Alright, alright, alright. Je pense que là, vous avez compris où est-ce qu'on était. On était un peu dans de la musique douce, un peu de rock, un peu de new metal. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai voulu, pour m'accompagner, bel ami Ben de la brivade bavarde.
La brivade bagarre.
Voilà, c'est ça. La brigade bavarde. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, outre le fait que tu es un magnifique garçon?
J'essaie sur le physique.
Non mais j'ai essayé de me rattraper parce qu'il va engueuler parce que j'ai dit le bide de peintre, mais c'est vrai que c'est tellement cliché, mais c'est ce que tu as, mec.
Le bide de peintre. Ouais. Ça, il la rajoute.
Oui.
Au cas où les gens n'avaient pas encore compris. Merci.
D'ailleurs, mais moi aussi je l'ai, bordel de merde. Alors du coup, Benoît, comment vas-tu?
Mais écoute, ça va très bien. Ça fait plaisir d'être ici.
Ouais. Impeccable. Et dis-moi un petit peu la brigade bavarde, qu'est-ce que c'est un petit peu?
Podcast typiquement marseillais, axé cinéma, pop culture, musique. C'est avant tout cinéma, c'est sûr, mais forcément, dès qu'on parle cinéma, ça part sur des sujets beaucoup plus larges qui nous touchent. C'est vraiment la culture, la pop culture, des choses assez simples qui nous ressemblent, qui nous rassemblent, avec lesquelles on a grandi, avec des sujets plus actuels. Voilà, on aime bien parler de tout ce qui fait la culture, tout simplement, quoi. Ouais. Tout ce qui nous touche, nous. Ça peut autant, on a invité des groupes de musique, on a invité des acteurs de doublage. Voilà, tout simplement, quoi.
Ok, tout ce qui touche la culture.
Voilà, tout ce qui touche la culture.
Et Ben, alors Ben, en dehors de son physique, c'est aussi un t-shirt de Deftones, voilà.
Oui,
Les représenter.
Ouais, c'est ça, parce que... Ben a grandi avec une culture, mais pas n'importe quelle culture, on va dire la culture rock. Et on va dire que Deftones fait partie un petit peu de ta culture, fait partie un petit peu de ton identité.
Bah, comme beaucoup de gamins des années 90, je suis né en 90. L'année 90, on a tous grandi avec, enfin beaucoup ont grandi avec ça. C'est arrivé en 94 avec des groupes comme Korn. Moi, j'ai découvert ça très tôt et c'est quelque chose qui m'a suivi très longtemps. Et... Donc forcément, et puis c'est quelque chose à l'adolescence, on en était tous dingues, quoi. Enfin,
ouais.
On en voyait partout, quoi.
Mais c'est vrai que je trouve que le rock et le metal et le new metal, c'est vraiment une période qui est quand même très années 90, début 2000.
Ouais. Alors justement, moi, si on peut juste définir ce que c'est metal, parce que moi, pour le coup, j'écoutais des groupes, mais je pense qu'ils n'étaient pas du tout de l'ordre du metal, c'était plus... de la pop rock, enfin The Offspring et tout ça, c'était...
Là, on était plus sur le côté punk, ouais.
C'est punk rock.
Ouais.
Et alors, le metal, c'est quoi exactement? Par rapport au rock classique, on imagine?
Là, on part vraiment sur des sons plus saturés, plus lourds, beaucoup plus de batterie, de double pédale, par exemple, des chants beaucoup plus criés.
Okay.
C'est ce côté plus extrême, plus poussé. Je ne veux pas dire forcément c'était mieux, mais... Mais plus poussé que le rock, quoi.
Ouais.
Ils allaient plus loin dans la distorsion, plus loin dans la batterie, plus loin dans les chants.
Ah, typiquement. Et les sons.
Ce côté hard rock est allé encore plus loin, par exemple.
Quand tu dis, par exemple, les cris, les sons gutturaux, là, quand.
Exactement,
ça, c'est, ça, c'est le métal,
ouais,
ça. Donc.
Ouais, le scream, un peu.
Ouais, ok. Ça,
ah, exactement.
Okay, ça, c'est métal. Ah, okay.
Voilà, Satan, tout ça, quoi.
ok, on aime beaucoup.
Et pourquoi on a commencé avec Deftones cette émission? C'est parce que quand on regarde un petit peu l'idée un petit peu du métal, et le métal en soi est un genre de rock, du coup, et aussi, du coup, ça a apparu un peu dans les années 90, à la fin un peu des années 70-80, où il y avait un peu le hard rock, tous les groupes comme AC/DC, etc., qui commençaient un petit peu à s'essouffler. Et là, on a eu un petit peu, un peu le grunge aussi, avec Nirvana, avec tous ces groupes-là. Il y avait Kiss aussi à l'époque, mais bon, ça c'est encore plus vieux, mais voilà. Et en fait, il y a eu une sorte de rébellion, je trouve, dans les années 90,
ça, ouais.
Qui ont voulu un peu sortir de ces papas un peu du rock. Ces cinquantenaires qui commençaient à être...
Qui étaient tous devenus des caricatures.
Oui, exactement. Et il y a eu ce renouveau un petit peu du rock. Et il y avait aussi une nouvelle culture qui était la télé. Mmh. Qui était la télé, et le rock aussi représentait une certaine caste de population. Le rock vient quand même un petit peu des garages, des familles un peu ouvrières, bon, même un peu forme de richesse, mais quand même assez, on va dire, un peu garage, indé, underground. Et il fallait un peu mettre en exergue son mal-être. Ou pas, hein, mais c'était beaucoup sur le mal-être quand même, le nu metal. Et c'est vrai que ça... eu un énorme impact dans les années 90-2000. Et Deftones, même si, et j'ai un peu lu à droite à gauche, sont pas hyper fans d'être un peu les créateurs désignés de cette mouvance-là.
Mais ils en font partie quand même.
Mais ils en font clairement partie. Eux, ils aiment bien dire qu'ils sont plutôt metal alternatif. Mm-hmm. Ce que je trouve aussi pas mal, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas fait que du nu metal quand j'écoute.
Ils en sont vite sortis.
C'est vrai que leurs deux premiers albums étaient très nu metal. Mais pour moi, il y a deux mastodontes. C'est Deftones et Korn. C'est vraiment pour moi les deux boss, on va dire, de ce mouvement-là.
Okay.
Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, je trouve. Et c'est quoi un peu le deuxième son qu'on avait mis juste après?
C'est Aveugle de Korn.
Moi, je vous propose
de Maïs.
Du coup, comme on a écouté... on va écouter Maïs, le Maïs aveugle. bon, voilà, pour nous mettre encore plus dans l'ambiance, pour que vous captez un petit peu ce côté un peu mal-être, etc. On va se mettre un petit Korn, comme ça vous avez eu Deftones, avec cette voix suave et tout, et on va parler un peu plus de Deftones, de chaque musicien, etc. Et là on va se mettre Korn, pour que vous voyez un petit peu voilà, les deux mastodontes, et pour nous mettre une bonne base, et après on va aller un peu plus dans le sujet, et let's go, c'est parti. We'll be right back. Aïe.
Bienvenue en 1994.
Voilà, ouais, Korn.
C'est un bond dans le temps, là.
Oh la vache.
Mais et... ce que je vous disais, c'est... pardon, je t'interromps, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant, moi, je trouvais, d'écouter ce... Parce qu'on se rend compte qu'il s'est passé la même chose dans le rap, après le même mouvement que celui qu'on voit dans le, rap, dans le rock de cette époque, c'est-à-dire d'un coup du son saturé, des enregistrements un peu dégueux, cette espèce de truc hyper qui vient de l'intérieur. Et il s'est passé la même chose dans le rap 20 ans plus tard, si on regarde bien, ça a été le même.
Ça
virage.
Ça, beaucoup d'émotions, on va exacerber. Pas mal de frustration, et voilà, donc, comme tu dis, on va tout saturer, on va faire des choses crado. Mmh. Mais voilà, tous ces gamins du rap qui étaient arrivés avec SoundCloud et tout, ils le disent, ils sont tous inspirés de ces mecs-là 25-30 ans plus tôt, les Korn, les Deftones, les Limp Bizkit, le côté aussi un peu émo qui est arrivé plus tard, mais.
Ouais. Et voilà, donc, du coup, le rock et le rap qu'on oppose vachement, en fait, quand ils sont hyper liés, en tout cas dans l'inspiration de l'évolution.
T'as dit un mot qui je trouve qui est important, c'est que le mot opposé, en fait, entre le rock et le rap, finalement, je trouve que c'est en même temps vrai, parce que bah, c'est deux styles qui sont différents, mais c'est deux styles qui se complètent de fou. Et le nu metal, je trouve, a réussi avec des groupes, bon, même si Korn et Deftones. Chante beaucoup, il y a quand même beaucoup de parties un petit peu rappées, parlées, etc. Mais ça a toujours fait partie de l'ADN finalement du métal.
Bien sûr, mais c'est pour ça que c'est arrivé aussi à cette période-là, début des années 90, parce que tu as dit, il y a ce rock vieillissant qui était là, la télé MTV qui commençait à matrixer les jeunes et tout, mais tu as aussi la culture rap US qui arrivait en force fin des années 80, début 90.
Ouais, la West Coast, la East Coast, ils étaient à fond. Donc, mais c'était aussi pareil dans le rock.
C'est ce qu'ils écoutaient. C'est ce qu'ils avaient envie de faire. Et c'est pour ça aussi que le new metal à cette époque-là marchait autant. Ce côté rappé, ce côté scratch, ils avaient tous des DJ.
Ouais. Ouais.
Ils avaient tous des DJ.
Mais c'est vrai que tous, hein, et bah, le groupe, on va dire. Moi, je trouve le plus important dans le côté new metal un peu rappé, pour moi, c'est Limp Bizkit. Il n'y a pas à chier. Mm. C'est les mêmes caisses de batterie que là, on a entendu dans Deftones et Korn. Sauf qu'eux, ils ont rajouté un truc. Bon, il y a aussi dans Korn du scratch et tout, mais quand même, c'est moins mis en avant. Là, vraiment, Limp Bizkit, avec Fred Durst et tout, ils ont... Moi, c'est vrai que j'ai plus écouté, on va dire, du new metal via Limp Bizkit. Toi, c'était plus Deftones, du coup.
C'est avant tout Korn, et c'est plus tard, parce que je trouvais, enfin, on en parlera sûrement plus tard de Deftones, mais c'est avant tout Korn.
Ouais.
Très tôt, j'ai accroché de fou à tout ça. Mais Korn a chapeauté tout le monde.
Ouais.
Et apporter tout le monde avec eux.
C'était des visuels en plus. Moi, je sais que ce qui m'a amené à Korn quand j'étais au collège, c'était justement les visuels parce qu'ils avaient des.
Et on était tous genre.
Ouais. Ouais, les t-shirts, c'était hyper. Toujours autour d'un peu de cet univers un peu diable, tout ça. Mmh. Je me rappelle, il y avait quelque chose de.
Ils ont toujours été un peu contre-culture, de toute façon. Mmh. Même comment le chanteur de Korn, il s'habille. Tu sais, il a toujours des sortes de jupes, des longs, des t-shirts, des débardeurs. Enfin, il essaye, tu sais, il est toujours un peu crado. Il veut pas être dans une case. Du coup, il s'habille.
Mmh. Et du coup, il rentre dans une autre case. Ça, c'est les joies du capitalisme, c'est ça qu'on aime.
Carrément. Mais en même temps, tu vois, voilà, ils étaient dans une sorte de. Enfin, ils ont toujours été. Ils sont dans une sorte de contre-culture qui en est devenue une culture, mais qui était vraiment en mode on veut chier sur les gens, quoi. Mmh. Et, enfin, sur les gens, sur le système, et c'était réussi. Et d'ailleurs, ils n'étaient pas aimés par beaucoup de
l'Amérique puritaine les détestait, mais en même temps, les mecs, quand ils ont fait des énormes tournées où ils mettaient à l'affiche, ils avaient Limp Bizkit avec eux, mais en même temps, ils avaient Ice Cube, donc ils mettaient des énormes rappeurs qui eux non plus n'étaient pas aimés par l'Amérique puritaine. Mm. Et ils vont faire, on va faire une big tournée des stades dans tous les États-Unis, mon pote, et on va tous être sur la même scène, et les images sont dingues, quoi.
Ouais. C'est vrai, Public Enemy et tout aussi, avec tous, ils étaient tous, en fait, ils étaient tous potes. Et c'est pour ça que c'est marrant de voir finalement ce côté un petit peu opposition rock et rap, parce qu'en fait, à la fin, ils sont tous devenus potes. Il y a eu des super groupes aussi, avec les musiciens de Rage Against the Machine, avec les rappeurs de, c'est pas Public Enemy, si, je crois, c'est ça, Rage of Prophet, Prophet of Rage.
Ah ouais, c'était Public Enemy.
Ouais, c'est ça. Mmh. Là, d'un seul coup, t'as le combo. Ouais.
t'as le combo anti-capitaliste ultime.
Ouais, mais en fait, c'est parce qu'ils se rejoignent tous dans le fait qu'ils étaient de la contre-culture et qu'ils sont passés dans de la culture tout court, vu qu'ils sont devenus populaires les uns et les autres, en vérité.
Exactement. Ouais. Et il y avait aussi cette culture, du coup, dans les années 90-2000, où la télé et les chaînes de télé, comme MTV, prenaient énormément de place. Et du coup, ils ont regarde, ils ont pris le filon, quoi. Mmh. Et le filon du nu metal et du rock à l'époque était ultra écouté, plus écouté, et était beaucoup plus rentable que le rap. Même s'il y avait beaucoup de rap et que c'était aussi représenté. Mais c'est vrai qu'il y a une époque, moi j'avais l'impression que, alors, Limp Bizkit, etc., Korn et tout, mais il y avait aussi d'autres groupes, tu en as parlé tout à l'heure, ouais. Offspring, Sum 41, qui sont pas du nu metal et tout, mais qui étaient quand même une branche du rock un peu punk et tout, ils étaient omniprésents partout. Et moi, à un moment donné, j'en pouvais plus. System of the Down, etc., etc., ouais. Ils étaient là tout le temps. Moi, j'en étais saturé à un moment donné, alors que je suis un grand fan de rock. Il y a eu une sorte de saturation, surtout dans les années 2000, entre 2000 et 2010, où vraiment, j'avais l'impression qu'on pouvait plus les blairer.
Après, si on arrive aussi à cette période-là, c'est que les mecs, on était au 15e album. Ouais. C'est bon, faut peut-être changer la recette, les gars. On connaît, on évolue tous, nos goûts aussi, c'est normal. Donc oui, t'écoutes la même chose depuis 15 ans, t'en as marre là.
Ouais, et surtout qu'à l'époque, il faut le préciser, on avait un MP3 avec 150 sons, dont 50 qu'on écoutait en boucle toute la journée. Donc peut-être c'est là d'où vient la saturation, c'est qu'on n'avait pas autant de choix que maintenant.
Aussi, ouais, c'est sûr.
On ponçait les albums et les sons jusqu'à la mort, quoi.
Mais ouais, complètement, complètement. Mais quand même, il y a eu cette culture-là, et c'est vrai que je trouve que le rap, c'est là où je trouve que finalement, ils ont eu des destins hyper similaires, le métal et le rap. C'est que il y a eu un petit peu une sorte de descente un peu aux enfers du nu metal. Et des groupes comme Deftones, etc., sont devenus en fait des groupes qui étaient des groupes pas mainstream, mais qui étaient des groupes ultra écoutés, ultra représentés, sont devenus des groupes un peu has-been, un peu oubliés. Même eux sont passés par des fréquences très sombres. Mmh. Si tu veux en parler, par exemple, un petit peu de Deftones.
Ouais, je suis pas non plus historien de Deftones.
Mais si, putain.
T'as un t-shirt
Deftones, bordel de merde.
C'est pour ça qu'on t'a fait venir maintenant, t'assumes.
Non, tu nous parles de Deftones. Non, mais c'est pas... je trouve que ça, leur trajectoire représente aussi un petit peu la trajectoire du mouvement. C'est-à-dire que ils ont eu les deux premiers albums de Deftones étaient énormes, et après il y a eu pas du tout un passage à vide, parce qu'ils ont toujours eu un gros groupe de fans, et ils ont toujours été soutenus. Tu le vois sur les trucs en streaming, ils sont méga écoutés toujours, Deftones. Mais il y a eu quand même une sorte, je trouve, de mon avis personnellement, un côté un peu has-been. Est-ce que tu es d'accord?
C'est pas has-been. L'avantage que eux, ils ont eu, c'est qu'ils sont... ils ont eu des premiers albums très néo-métal, machin, mais ils en sont vite sortis, sûrement par goût personnel, et ils avaient envie de faire autre chose et d'explorer d'autres sonorités. Du coup, ils sont sortis un peu de ce mouvement et du coup étaient vachement moins exposés. Mais les mecs, ils continuent à tourner partout, leur fanbase, elle était très présente. Mais c'est vrai qu'eux, ils ont quitté le train assez rapidement. Mais il y en a eu d'autres qui sont arrivés et qui sont allés faire autre chose, genre les Linkin Park. C'est clairement, on est presque sur la deuxième génération de nu metal.
Exactement, c'est vrai qu'on oublie. Et quand j'ai refait un petit peu la chronique, c'est que je réfléchissais un peu à ce qu'on pouvait mettre et tout. C'est vrai que j'ai complètement zappé, mais Linkin Park j'ai eu l'impression. Je vais peut-être dire un truc, je vais me faire défoncer par les fans, mais il y a eu une sorte d'avant Linkin Park et d'après Linkin Park. Il y a eu un peu le côté un peu année 2000 où Linkin Park est arrivé. Ils ont tout fracassé.
Ouais, deux albums.
Avec Meteora, etc., etc. Et en fait, ça a un peu éteint tout le monde, tu vois. Après, Linkin Park est parti un peu en mode...
On va faire de la pop rock, hein.
Voilà.
Et ça rapporte fait... plus, quand même. Hein.
Ouais, bah ouais, mais du coup...
Faut faire la BO de Transformers.
On est là. Et en fait, je trouve que ça a un peu dénigré un peu le milieu, je trouve, tu vois. Le fait qu'ils aient fait ce virage-là, même si j'ai rien contre eux et tout, hein, tu vois. Mais ça a mis un petit coup d'arrêt, je trouve, au rock. Et là, d'un seul coup, le rap a pris une autre place, du coup, a rapporté beaucoup plus d'argent.
C'est Linkin Park qui aurait donc fait la place au monde du rap. C'est ça, ta théorie du complot aujourd'hui dans le studio développé.
Non, mais...
Le métal s'est retiré, le rap a repris. Mais en même temps, maintenant, t'as un re-revival de tout ça.
Mais oui.
Linkin Park,
mais oui.
Qui re-revient.
Mais oui.
Nouvelle chanteuse, du coup.
Ouais.
Et ils font tourner des stades mondiaux depuis 2 ans, 3 ans.
Ah bon, je savais pas du tout, parce que moi j'avais appris la mort du chanteur, j'ai plus le nom.
Depuis 2 ans, 3 ans, il a été remplacé par une chanteuse.
Ça c'est fou. Que c'est...
Avec nouvel album.
C'est dingue ça.
Les fans répondent hyper présents et ça joue complet dans tous les stades du monde.
Et la chanteuse, elle joue les chansons qui étaient aussi.
Nouvelle créa et ancienne.
Ah ouais. Mais ça c'est incroyable, parce que je trouve dans le rock, c'est ce qu'on peut voir et qu'on voit jamais dans d'autres genres. C'est que dans le rock, s'il y a un membre du groupe qui meurt ou qui devient sourd comme pour AC/DC ou autre, on peut le remplacer par quelqu'un d'autre et continuer l'aventure.
J'ai pas d'exemple en tête, mais c'est quand même un exercice assez compliqué.
C'est souvent ils se cassent la gueule, mais ils le font quand même, ce qui paraît improbable. Parce qu'on
un chanteur, c'est compliqué quand même.
Ouais, c'est vrai que perdre un chanteur. Ouais,
Deftones ont perdu le bassiste il y a un moment maintenant, il a été remplacé 2-3 fois, ça va.
Est-ce que tu veux dire que les bassistes sont pas...
ils ne sont pas irremplaçables. Bah, Limp Bizkit, ils ont perdu leur bassiste cette année, je crois. Mais bon, après, il était malade depuis déjà quelques temps. Ils avaient déjà, avec les nouvelles tournées, récupéré un nouveau bassiste. Et voilà, c'est vrai que tu enlèves Fred Durst de Limp Bizkit. Tu vois, après, le guitariste, par exemple, les guitaristes, je trouve, sont quand même ultra importants. Remplacer un guitariste, c'est dur aussi. Pareil, Limp Bizkit ont essayé à un moment donné... de remplacer leur guitariste.
Sur un album. Ils ont remplacé Wes Borland.
Ouais. Et ça s'est pas super bien passé. Même si le guitariste était quand même assez stylé. J'ai vu un peu des lives et des trucs. Il était trop chaud le guitariste qui avait remplacé. Mais c'est juste que ouais, Fred Durst et Wes Borland, c'est Limp Bizkit quoi.
Limp Bizkit, c'est un bon exemple aussi de cette génération. Eux, c'est le côté un peu. Ils sont moins dark que les autres. Eux, c'est le côté un peu quarterback du lycée. Ouais. Ce côté un peu petit couillon américain.
American Dream, le blanc avec une petite casquette rouge. Quoi.
Ouais, voilà, casquette New Era à l'envers. Eux, ils font un peu plus les cons sur scène. Et c'est ça aussi qui marchait. Mais ce qui est marrant, c'est ce qu'on leur reprochait avant. Et tout le monde les trashait, Limp Bizkit. Hein. Les rockers, ils disaient que c'était de la merde, c'était la fin de la musique. Mais ils en prenaient vraiment plein la gueule à l'époque. Et ben ils ont fini par complètement assumer cette image. Maintenant, ils font n'importe quoi sur scène. Ils viennent habillés en vieux. Ils les ont complètement adopté, ce personnage-là. Et ça marche.
Bah oui. Bah ouais, mais c'est ça qui est cool. En plus, Wes Borland, il me fait trop rire parce que lui, à chaque tournée, il a un nouveau personnage. Et il se fait ses propres déguisements et tout. Et c'est ultra recherché ce qu'il fait. D'ailleurs, faire des sets entiers, des fois, comment il est habillé, je me dis, comment il doit crever de chaud le mec là-dessous.
Ouais, sous masque et tout.
Et souvent, dans le monde de l'art, les artistes dans tous les genres, c'est souvent en s'appropriant les critiques les plus infâmes qu'ils arrivent à devenir, on va dire, la version la plus extrême ou la meilleure version d'eux-mêmes. Et on le voit dans tous les genres. En vérité, s'approprier les attaques qu'on te fait, c'est vraiment devenir vachement fort. Alors, je sais que c'est hyper commun comme phrase et ça peut paraître un peu plan-plan, mais je sais que je pense aux Daft Punk qui ont pris leur nom d'une critique ultra dure dans les journaux, et pas mal de groupes en fait ont réussi à choper cette haine, mais Kinvel n'a pas réussi à faire ce virage malheureusement. Mais...
Ça, je l'attendais à la naissance. Mais Kinvel est toujours là. Hein. Kinvel est toujours là.
Ouais, il anime l'anniversaire de quelqu'un là ce week-end. Non, mais... Tu peux le louer, hein, 500 balles apparemment la soirée.
Mal pour un artiste, on va pas se mentir.
Moi, je vous propose que pour mettre un peu des paroles et de la musique à nos mots, je sais pas ce que je viens de dire, c'est n'importe quoi.
Allez, on va continuer à vrai ce petit AVC de Mokino.
On va se mettre un petit Limp Bizkit là, un petit peu pour. Vous avez capté un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure.
Quel titre du coup ?
C'était Nookie.
Ah, allez, c'est parti.
Let's go. We'll be right back.
like a champ, hey, 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 like a champ.
Je reviens, je vais aller m'acheter un baggy et des chaussures de skate. Ouais,
c'est vraiment des petits cons, quoi. C'est là où on comprend que, oui, ils étaient considérés comme des petits cons parce qu'ils vont vraiment dedans, quoi. Et on en parlait en off. C'est vrai que c'est là où on voit le pont entre la culture rock, etc., et l'inspiration aussi rap hip-hop. Contrairement au métal, comme tu disais tout à l'heure, tu demandais un peu qu'est-ce que c'est en fait du métal. Le métal, c'est beaucoup de double pédale, par exemple. Mmh. C'est la batterie, ça va aller très vite, ça va être vraiment genre...
Ouais, ça va tartiner, quoi.
C'est comme si t'écoutais de la grosse trance en 180 BPM et t'es en mode tu comprends rien, les mecs ils scriment, ils ont les accords, ça va partout sur le manche. Là, on est sur une rythmique presque boîte à rythme, un peu hip-hop, comme tu disais.
Ouais, c'est ça, ils sont complètement inspirés par les mecs qui, eux, font du rap, du hip-hop. Donc c'est pour ça des batteries beaucoup plus serrées, moins de double pédale, il y en a un peu, mais c'est beaucoup de charlets, de caisses claires, des trucs très, très resserrés, mais beaucoup plus fins, beaucoup plus précis. Les mecs, ils sont ultra serrés, ultra tight, quoi. Ça déborde pas. Les guitares, elles sont beaucoup plus, pareil, dans cet esprit de rythmique, elles sont un peu moins présentes. Pour vraiment tout mettre sur la rythmique, t'as pas de solo, t'as pas d'envolée.
Exactement, ouais. Et c'est ça qui est beau, du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça du new metal, finalement, je trouve. C'est que ça, là, on fait un mix de plusieurs genres, le metal, le hip-hop, etc. Et c'est vrai qu'on parlait un petit peu, parce que là, on a mis un peu les trois mastodontes un petit peu de ce style-là, et on parlait aussi du festival Woodstock 99, qui a été, je trouve, il y a d'ailleurs un super documentaire Netflix sur ça, il faut vraiment que vous allez voir, parce qu'il est vraiment très très bien conçu, et je trouve que c'est un peu le début. C'est vrai que, outre que Linkin Park a tué...
Ils ont tué l'industrie.
Et ben, ils se sont un peu aussi tous cassé la gueule, un peu parce qu'il y avait un moment donné, fin des années 90, début 2000, un petit peu, je trouve, cette mauvaise image de ce style-là, avec ce blanc américain qui boit des grosses cannes, qui est là.
Ouais, c'est débilos, quoi.
C'est gros débilos et tout, ce qui était le cas en vrai, il y en avait quand même des gros débilos. Et Woodstock 99 a été concrètement l'apogée de ce genre de personnage.
Ah ouais, c'était que des tchads.
Ouais.
musclé, casquette à l'envers, torse nu, petit collier de perles un peu proche du cou.
L'as, celle-là. Avec des sortes de pantacours en jean.
On le visualise bien. C'est le méchant dans la série Netflix actuelle maintenant.
Voilà, c'est ça. Et en plus, le festival était super mal organisé. Il n'y avait pas assez d'eau, pas assez de toilettes. Les mecs, ils étaient payés. Ils ont utilisé l'image de Happy Flower, Peace and Love. En fait, ils ont mis que des groupes agressifs.
C'était allez, que des groupes. Limp Bizkit main stage. On va jouer Break Stuff.
Et on va vous niquer à gueule.
Ouais, ça. Mais en plus du fait que c'était mal organisé, c'est que le public a tout cassé aussi à des moments. Parce que moi, de ce que j'ai vu, ils ont détruit les toilettes, détruit le.
C'est parce que les mecs, ils pouvaient pas boire. Et en fait, ils se sont rendus compte que les gars, ils buvaient leur propre pisse.
Oui, et surtout, je
crois. Tu m'étonnes qu'ils ont voulu péter tout ce qu'il y avait.
Ce que dit le documentaire, c'est qu'en fait, les gens ont pété un plomb parce qu'en fait, ils ont récupéré cette culture et ils ont facturé, c'est ça, les bouteilles d'eau c'était à 15$, enfin ils ont fait des prix complètement excessifs, qui étaient tout ce que dénonçait cette contre-culture-là, ou en tout cas ce phénomène-là de capitalisme prédateur, et le festival s'est transformé en espèce de gros piège géant où les gens se retrouvaient assoiffés à devoir payer des fortunes pour boire un verre d'eau ou ce genre de choses.
Et il n'y avait pas que la grosse scène de rock, il y avait aussi une autre scène un peu plus électro et tout, où il y avait
l'autre là. C'est vrai que j'avais oublié ce passage-là, sur la scène électro, la fin de la soirée se passait dans le hangar, le côté électro.
Putain, t'as l'ambulance qui arrive au milieu. Les mecs, ils comprennent pas ce qui se passe. Tout le monde qui est là, il y a quelqu'un qui est en train de mourir dedans. Et
pour organiser pour ma part des petits événements, je sais que rien que d'y penser ou de voir ce genre de documentaire, ça me donne des sueurs froides parce que je me mets à la place de quelqu'un qui est dans l'orga. Parce que je me dis, il n'y a pas que des sgecs dans cet orga. Il devait y avoir quelques personnes calibrées qui se sont retrouvées dans une espèce de cauchemar géant.
Comment on va faire, les gars
non, mais clairement, dans le documentaire, il y a plein de gars qui faisaient partie de l'événement. Qui disait non mais en fait là on a pas du tout mesuré l'impact vu en fait les gens qu'on a invités, les artistes etc, et en fait c'était un gros problème de programmation. Et le mec aussi qui a créé Woodstock 99, qui a repris un peu le flambeau, était complètement allumé aussi, je crois, si j'avais bien compris. C'était une grosse merde, ce gars. Et en fait, lui, tout ce qu'il voulait, c'était se faire du fric, utiliser l'image de Woodstock tout en faisant venir, en fait ils avaient pas du tout aussi La programmation, t'avais Offspring, t'avais Limp Bizkit au milieu aussi. Il faisait passer, je sais plus comment il s'appelait, mais une sorte de mec de country.
Tout
le monde. Les gars qui étaient devant lui, c'était tous des gros tchads qui étaient là. Et puis il y avait l'autre qui commençait à chanter, il se prenait les canettes dans la gueule. En fait, à un moment donné, tu réfléchis deux secondes, tu te dis juste. Non, mais en fait, on fait
ma prog et tiendra pas là.
Ouais, c'est ça. On va pas faire jouer un mec qui va dire genre pull up, bombacla. et en fait, devant toi, t'as juste des gros trous du cul, quoi. Tu vois, genre, c'est pas possible. Donc c'est vrai que c'était en fait. Finalement, quand on regarde avec le recul, oui, c'était vraiment pas une bonne idée comment ils ont organisé le truc, tu vois. Mais ça, je trouve que c'est là aussi.
Mais c'est très symptomatique, ouais, de cette période et de cette époque qui a aussi amorcé sa propre descente aux enfers. On est au pic, tout le monde écoute ça, tout le monde en boit et en mange depuis des années maintenant. Woodstock, et là, ça a commencé un peu la descente et les groupes sont allés justement. Pour ceux qui ont voulu s'en sortir, sont allés sur d'autres chemins, quoi. Deftones, ça fait déjà quelques années qu'ils étaient sur, ils étaient sortis du new metal, avec, il n'y avait plus de rap, il n'y avait plus de scratch. Ils avaient déjà complètement changé de style. Du coup, c'est pour ça que ça fait longtemps qu'ils refusent cette image de new metal.
Ouais. Ouais, de toute manière, pour les groupes, c'est ça le challenge tout le temps, dans tous les genres, c'est de se réinventer constamment et de ne pas rester cloîtré dans un style, parce qu'effectivement, les genres, ils peuvent avoir des moments d'apogée et puis après, ça redescend toujours. Mmh. Alors qu'un groupe, s'il arrive à évoluer, justement, à naviguer entre les genres, il peut se réinventer, exister, quoi.
Bah, je trouve que Deftones, ça a quand même une couleur, après avoir écouté un peu déjà leur dernier album, que là, je viens de poncer aujourd'hui, et je me suis dit, waouh, les gars, quand même, la voix qu'il a, j'ai oublié le nom du chanteur.
Chino Moreno.
Tino Moreno a la même voix que sur les albums des années 2000. Il est. T'as l'impression qu'il est encore plus jeune aujourd'hui quand il chante.
Ah, c'est depuis qu'il arrête de boire. Hein.
Oui, c'est grave. Ouais, tu nous as dit qu'il avait été passé par une phase où.
Mais tu commences à peu faire du bien. Ouais, ça fait 15 ans, je crois, un truc comme ça, qu'il est sobre. Du coup, il maîtrise un petit peu mieux, quoi, ça va.
Ouais, bah eux, ils sont passés quand même par des phases. Bah, du coup, ils ont eu leur pote avec qui ils ont créé le groupe, le guitariste ou bassiste.
Ouais, c'était le bassiste, ouais.
Qui est décédé dans les années 2011, je crois, 2013.
Ouais, quelque chose comme
ça, gros, il avait un accident de voiture et en 2008 ou 2009, qu'il a mis dans le coma et il est devenu un peu handicapé, pas tétra, mais voilà quoi.
Je crois qu'il en est même jamais sorti du coma. Jamais...
Je crois que si, mais c'est juste qu'il pouvait plus parler, il bougeait plus, quoi.
C'est chiant pour jouer.
Ouais. Et ça, ça a été
chiant pour tout le reste aussi.
Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément. C'est pas facile. Mais du coup, je vais dire des conneries, putain. On va rester calme.
On va aller dans l'enfer qui nous est promis par le monde du métal.
Ah ouais, grave. Et c'est vrai que bah, là, cette période-là a été très, très brosson pour Deftones. Et je crois qu'il a eu le chanteur cette période-là. Et ensuite, il a décidé d'arrêter un peu tout ça. Mm. Et là, c'est parti. Je trouve que tout leur album, parce qu'ils ont en fait, ils sont jamais arrêtés. Je sais pas combien ils ont fait d'albums, là, Deftones. Contrairement à Korn et Limp Bizkit, etc., qui ont eu des albums qui étaient quand même vachement plus espacés dans le temps. Limp Bizkit, ça fait quand même bien longtemps qu'ils n'ont pas sorti d'album. Ils ont sorti quelques sons, etc., mais c'est plus des collabs, c'est plus des trucs un peu voilà, qui sortent un peu de nulle part et tout. C'est aussi un peu au bon vouloir de Fred Durst et Wes Borland quand ils veulent faire des sons ensemble.
Quand ils peuvent se piffrer.
Ouais, c'est ça. parce que bon, après, voilà, hein, ils sont obligés contractuellement de faire des concerts et tout, mais en fait, j'ai l'impression qu'en studio, ils veulent plus trop être ensemble. Et Korn, c'est pareil, Korn, ça fait long. Enfin, là, j'ai regardé un peu sur leur discographie et tout. J'ai l'impression qu'ils restent un petit peu sur leurs acquis, quoi. C'est pas
moi, c'est comme ça que je le vois, et j'avoue avoir été méga fan de tous les premiers albums jusqu'au 5-6e, je sais plus exactement. Mais comme tu dis, ils restent sur leurs acquis. Ça fait 30 ans qu'ils font ça, les mecs.
Ouais. Ouais, mais c'est parfait, hein. C'est pas être dénigrant de dire ça, tu vois. Genre, mais c'est vrai
mais
que
ça me parle plus, quoi. C'est, ouais. Là, pour moi, c'est vraiment devenu une caricature de ce qu'ils faisaient à l'époque.
Ouais. Ouais, après, bon, il y a un revival cette année, quoi. Tu vois. Enfin, je trouve que depuis les années 2020, il y a un réel revival de ce style-là et de ces groupes-là. Peut-être parce qu'en fait, ceux qui les écoutent et ceux qui les écoutaient, c'est-à-dire les enfants un peu des années 90-80, qui ont aujourd'hui entre 30 et plus de. Enfin, 40 et un peu plus, ont un peu un côté nostalgique. Et qui y a un peu ce rétro revival, qui veulent un petit peu maintenant revenir un peu à des bases, des choses qu'ils ont un peu reniées entre l'année 2000-2010, et qui en fait aujourd'hui, bah, vu un peu toutes les daubes qu'on a aujourd'hui, puisque la musique, et c'est un des sujets que j'arrête pas de mettre en avant, où je trouve qu'aujourd'hui on a une surécoute de la musique qui est aussi superbe, mais aussi des fois on peut être un peu pris un peu dans une sorte de brouillard, et bah, y a peut-être un petit peu nos anciens et puis nos grands frères qui ont envie de revenir un petit peu à certaines bases. Et c'est vrai que ça fait plaisir de se refaire un petit Korn, ça fait plaisir de se refaire un petit Limp Bizkit, de voir que ces mecs-là, en fait, ont vieilli aussi, et qu'ils font toujours la même chose, et qu'ils sont toujours là. Et en même temps, t'as Deftones au milieu, qui, en fait, ils ont sorti, je sais pas, 15
là, je viens de regarder, studio pur, ils ont sorti 10 albums.
10 albums, mais c'est énorme, en fait, parce que en plus, ils font pas genre des albums de juste genre 8 musiques, tu vois. Ils font des albums de, voilà, ça bombarde. Et en fait, en plus, chaque chanson, chaque truc, c'est pas juste du, comme là, on a pu écouter dans leur premier son. Ils vont partout, ils font peut-être des fois même un peu des sons de rock, un peu balade, un peu wave, un peu... Franchement, moi j'adore. En fait, au début, Deftones, j'aimais pas. Comme beaucoup de gens en vrai dans le rock et tout, parce que bah, sa voix un peu nasillarde, un peu fatiguée, un peu.
C'est un peu chelou au début.
C'est hyper chelou, Deftones.
Il crie un peu, mais c'est pas constant, c'est pas violent. Enfin, tu sens que c'est pas un démon le mec. Il crie parce que voilà, c'est l'émotion qu'il veut transmettre à la chanson, mais c'est pas le gros chanteur de métal énervé. Les guitares, elles sont très aériennes. Ça te fait un peu planer, t'as un côté planant chez Deftones.
Ouais.
T'as pas un DJ, mais t'as un mec qui est aux programmations, au clavier, qui crée des ambiances, des nappes sonores. C'est pour ça les gens ils sont là. Wow, c'est pas... Qu'est-ce que c'est
Ah, moi, j'adore. Bon, Deftones, c'est vraiment le groupe que t'écoutes comme ça avec tes écouteurs. Tu regardes comme ça la fenêtre quand tu regardes, puis t'es dans le train, dans la voiture, et puis tu réfléchis.
Deftones, musique de dépression aussi.
Un petit peu. Ou alors juste, tu sais, un petit peu en mode Kaizen, tu vois.
Ah, okay.
Je vais réussir dans la vie. Je suis beau, je suis fort.
Mais pas dans celle-là.
Peut-être la prochaine.
Ok, je capte.
Et du coup, ça, on arrive à un moment. La France aussi, là-dedans, dans tout ça.
La France,
monsieur.
Et la France dans tout ça. Et là, comme d'hab, 10 ans de retard. Hein.
10 ans de retard. Et moi, j'ai grandi avec un album. Alors, j'ai pas été hyper biberonné par le rock français. Moi, j'étais plus un peu dans les années 2000. Kyo. Luc.
Oh, Luc.
Oh,
wow.
Ouais, Luc, mon gars.
Ouais, je l'avais oublié, c'est pas grave celui-là, tu vois.
Ouais, bon, en vrai, Luc, quand même, c'était sympa, je trouvais. Enfin, il y avait un album qui était cool. Et. Plémo.
Alors ça.
Plémo, c'est très de niche.
Ah, c'est très de niche, mais à l'époque. Enfin, nous, avec nos potes, on faisait du skate, du BMX, tu vois. Ah, c'était trop cool. Moi, c'était là. Ça a très mal vieilli.
Ça a très, très mal vieilli.
Là, on parlait de prod en off. Ouais, les batteries, elles sont super et tout. Voilà, t'écoutes les mais premières prods,
que...
tu fais... Ouais,
tu sens que Playmo, ils ont voulu un peu copier-coller cette mouvance un peu de l'époque.
Ah, mais c'est complètement du copier-coller. Ouais. Après, ils ont quand même réussi à avoir une identité qui fait qu'on savait que c'était eux. Ils avaient quand même réussi à coller leurs pattes là-dessus. Mais oui, c'est du copier-coller. Mais c'est ça qui les a fait décoller aussi, c'est ça qui les a fait connaître. Et après, ils en sont sortis.
C'était les meilleurs à l'époque. Moi, je trouve, dans les années 2000...
Parce qu'il y en avait de la saucisse. Hein.
Pouah. Les mecs, c'était...
La team nowhere.
Oh là 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 là. Allez, si vous voulez, on se les met là. Un petit Playmo Blom du premier album. Vous allez voir, c'est dans un style.
C'est un style, c'est un genre.
C'est un genre.
À part entière, très niche.
Mais on les a acceptés hein, à l'époque. Mais au collège, tu sentais que les gars, ils étaient pas... We are under attack. En plus, les amis.
En français. Et j'ai jamais rien compris de ce qu'il racontait, ce mec.
C'est pareil, je comprends rien à ce qu'il dit, putain.
Je captais mieux des Américains sans parler anglais.
Mais je sais pas si les Américains comprenaient ce que les Américains racontaient aussi, du coup. Mmh. Du coup, je me pose la question maintenant, parce que moi aussi, j'ai rien compris. Mais sérieux, je me suis dit, ça.
Les gars, quelqu'un a compris quelque chose pendant 15 ans.
Non, mais c'est bon, on peut garder, ça va, ça passe.
Si, si, c'est, si, si.
Playmo, ça... quoi. Playmo.
Non, mais c'est vraiment une toute petite période de l'histoire de la musique française. Mais pour y avoir été dedans aussi, c'est vrai que c'est marrant.
Moi, j'avais l'album...
Elle n'a pas duré longtemps.
Ouais, ça n'a pas duré longtemps. Après,
ça a été très explosif pour eux.
Ouais, oui, oui,
ils
oui.
sont partis au Japon dès le premier album. Ils ont écrit le deuxième album. Paf, ouais. On l'écoutait tous. C'était fou. Troisième album dans la foulée. Ils ont joué dans Vivement Dimanche.
Mais non.
Non. Ah, je ne savais pas ça.
Il y a un live.
Il y a un live
Vivement
de...
Vivement Dimanche. Devant... Sur France 2, mec.
Mais non.
Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire ça? Est-ce que Deftones l'a fait? Non, 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 non. Korn l'a fait? Bon, ils ont fait nulle part ailleurs, c'est un peu plus classe. Ah, mais ouais. Ouais, ils ont joué sur France 2, mec.
Oh, putain, Playmo, quoi.
Comme quoi, des fois.
Bon, ils ont pas joué ce morceau-là. Hein.
Ouais.
C'était sur le troisième album.
Oui, le troisième album, il était un peu plus calme, ouais. Il était un peu plus accessible.
Mais il passe à la radio de fou.
Oui, bah moi j'avais le troisième album. J'ai connu ça avec, je sais pas comment ça se fait, je pense que c'était ma sœur à l'époque. Ma sœur était un petit peu rock'n'roll.
Oui, mais à l'époque, il y avait le Move sur toutes les ondes. C'est vrai. C'était une grosse radio rock. Il y avait
avant
des
de devenir une radio très rap aujourd'hui, le Move, c'était. Moi, j'ai connu le Move en écoutant ça en mode. J'ai écouté les premiers Offsprings et tout grâce au Move, quoi. C'était trop, trop bien.
Ça, c'était cool, ouais. Mais ouais, Playmo. Petite période. Pouf.
Mais pour dire que la France était présente.
Oui. Elle était présente de manière, voilà, on était là. C'est vrai que je connaissais pas du tout, moi, j'ai découvert complètement, quoi. Autant Luc, ça me disait quelque chose, autant là, c'était une découverte. Ça a été vraiment écouté.
Ouais, mais c'était vraiment par les teens, les skaters.
Ouais.
C'est une toute petite mouvance qui a duré que quelques années. Donc c'est
d'ailleurs, ils ont fait un petit Hellfest, je crois, en 2019 ou 2020.
Ouais, il y a quelques années, et les gens ont répondu présent. Ils ont fait quelques dates.
Ouais. Mais même eux, je pense qu'ils étaient surpris de rejouer. Je sentais que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué tous ensemble. Par contre, le chanteur était genre torse nu. Il avait une musculature, le mec. Il était impressionnant.
Ah ouais ?
Je sais, j'ai regardé
beaucoup sur le physique.
Ouais. Il était beau.
Non, mais c'est beau à son âge d'être entretenu comme ça.
Non, mais c'était impressionnant. Et c'était trop marrant parce que je trouvais que ça allait pas du tout. Tu sais, il avait une sorte de petit truc de tennis un peu là sur le bras, comme ça. Et on est en 2020, tu vois, et avec ce rock et tout, t'as l'impression que c'était en fait des teenagers de 50 balais qui faisaient du skate et tout. Ça faisait en fait, c'était hyper émouvant de les voir. Enfin, moi j'ai vu le live et tout parce que j'étais très 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 surpris et les voir et tout. Et pareil, j'ai encore rien compris quand ils chantaient. Et je pense que dans le public, personne ne comprenait ce qu'ils disaient. Par contre, ce qu'on peut pas enlever à Playmo, c'est que musicalement, les gars, ils envoient du pâté. C'est très très fort, je trouve, quand même. Et même pendant le live et tout, tu sentais que les gars, quand même, ils étaient chauds, quoi.
Ouais, il y avait un gros son. Plus les albums avançaient, enfin, il y a de la prod. Surtout le deuxième album, celui que j'ai vraiment le plus écouté, Medicine Cake, là, ça tape, hein.
Bah ouais. Mais moi, ça m'emmène du coup au sujet d'aujourd'hui, en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a un revival un petit peu de ce style ? J'ai envie de répondre oui.
Ouais, c'est clair, il y a un revival, mais en même temps. Il y a une transmission. Il y a des anciens qui sont toujours là. On parlait de Linkin Park, qui finalement, il y a eu des petites pauses, entre guillemets, mais qui sont toujours là. Nouveau line-up, ça sort des albums et ça joue dans des grosses salles, des gros stades. Les gens répondent présents. Deftones, ils n'ont jamais vraiment arrêté. Grosse tournée mondiale. Aux États-Unis, ça tourne de fou. Et puis après, il y a forcément un héritage. C'était quand même il y a 30 ans maintenant, le new metal. Ça fait mal. Mais il y a des gens qui ont grandi avec ça. Et il y a un vrai renouveau du métal, et particulièrement en France d'ailleurs. Ça pousse derrière, quoi.
Bah, c'est vrai que c'est, moi je pense que ce qui surprend tout le monde, c'est de savoir que le plus grand festival rock, métal, etc., il se déroule en France. Je pense que tout le monde a été surpris, moi le premier. Pour moi, c'était un genre justement qui était, je dirais pas à l'agonie, mais qui était devenu marginal. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, c'est un genre qui vit très bien et qui continue d'avoir une scène internationale avec des groupes qui fonctionnent très très bien partout où ils vont, quoi. Mais justement, parce que la fanbase, c'est ce groupe de trentenaires là, ils ont tenu bon jusqu'à maintenant, quoi.
On est toujours là.
Ça n'a pas été facile tous les jours.
On nous a mis dans des cases, dans des pubs. On ne pouvait plus bouger des pubs après.
C'est un peu ça, ouais.
J'ai pris la voix de Nikos avec les gars. Ouais, alors du coup, qu'est-ce que t'en penses du rock, mon ami ? Tu veux que je te prenne en photo ?
Très bien.
T'as vu un peu ?
J'aime beaucoup.
Jérôme Commandeur, cache-toi, j'arrive. Pardon. Yacine.
Moi, je pense au montage tout le temps, moi.
Si je vous parle comme ça, ça te fait chier.
C'est un cauchemar de montage derrière.
Et oui, du coup, voilà. Hein. Moi, j'ai envie de parler aussi de Landmarks.
Ah bah là, forcément, on parlait des enfants de tout ça, avec la France qui pousse derrière, et Landmarks, pour moi, c'est l'exemple typique, groupe français, biberonné à ça, au New Metal, bon, ils ont beaucoup, un peu comme le New Metal, ils ont aussi beaucoup d'influences diverses, tu vois, mais dont le New Metal, et eux maintenant, c'est tournée mondiale, le Zénith de la Villette, fin du mois... sold out, ils ont fait l'Olympia l'année dernière, sold out. Ça headline à 22h au Hellfest. Ben voilà, quoi.
Ouais. Groupe marseillais.
Ah oui, Marseillais. Ouais. Ouais. Ah, ok, d'accord. Ouais. Je découvre aussi quelque chose.
Ils ont joué à l'intermédiaire, à l'espace Julien. Ils ont commencé par là-bas, quoi.
Ok. Mmh. Et là, ils font des Zéniths, du coup.
Zéniths, là, à la fin du mois, sold out.
À chaque fois, je me rends compte à quel point je suis ignorant. Genre,
c'est marrant parce qu'on ne peut pas tout savoir.
Et oui. Et c'est marrant parce que je trouve que le chanteur a vraiment, c'est un peu l'enfant de Linkin Park.
Oh bah après, il n'hésite pas à le dire. Hein. Ouais. C'est Linkin Park, Slipknot, et d'autres groupes de hardcore plus violents, mais ouais, c'est une inspiration.
Donc là, on va écouter un groupe marseillais.
Un groupe marseillais.
Ok, qui fait du métal.
Qui fait du métal, ouais.
Ok, je suis très chaud d'écouter ça. Parce
vas-y,
que il chante en français ou en anglais?
En anglais.
Majoritairement anglais, mais il y a un petit peu de français.
Il y a des parties, par exemple.
Partie rap, ouais. En français en plus.
C'est ça, ouais, parce que il rap et tout. En fait, ils font un mélange de tout, je trouve, Landmarks. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est que dans le son, dans les sons, vous allez capter, il y a des fois, comme Créature par exemple, où il va commencer par du rap, après ça part en gros stoner, bien vénère et tout, et après ça repart un peu en mode break et tout, nanana. En fait, leur son, des fois, ça va vraiment partout. Mm-hmm. Et c'est ultra stylé, un petit peu comme Turnstyle et tout, peut-être à Turnstyle, c'est plus punk, etc. Mais
les prochaines émissions de Turnstyle, ça marche, n'en dis pas plus.
on pourra en reparler en vrai. Et c'est voilà, c'est ça, c'est magnifique, on y va, on écoute.
C'est l'odeur de l'enfer, un peu de souffrir de douleur qui s'émane et qui ternit mon âme et ma couleur. Je peux la sentir brûler tout mon corps, je veux la faire sortir, faire d'elle mon erreur. J'ai croisé tant de démons différents, j'ai bravé tant de vagues et d'océans, mais j'ai toujours ce monstre en moi qui dans le néant me crie.
I am the creature.
Everything within us falling down. The night. going in inside is my soul. You and I ain't supposed to be real. I no longer feel, cause you took everything.
Un peu de retard parce que j'étais plongé dans leur univers visuel. J'ai découvert aussi qu'ils savaient bien clipper ces Français.
Ah oui, 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 hein, le digne héritier de Chester Bennington.
Ah franchement, ouais, c'est clair. Hein.
On y est. Chester, ancien chanteur de Linkin Park, qui est décédé.
Ouais, mais non, je suis surpris en fait. C'est ce que je vous disais en off, mais je suis surpris de découvrir qu'il y a un groupe marseillais qui fonctionne aussi bien sur la scène nationale et internationale, puisque ouais. J'ai regardé les commentaires, etc. Et en fait, c'est un espèce de groupe qui est connu à l'international, qui est hyper apprécié apparemment du milieu. Mm. C'est incroyable de savoir que ça part d'ici, quoi. Moi, j'aurais pas du tout pensé qu'il y avait même des groupes français, entre guillemets, populaires vraiment dans ce genre-là.
Si, on a franchement, je trouve que le métal en France, surtout là, depuis quelques années, se porte bien. Mm. Bon, après,
Temps à redémarrer, mais ouais. Justement, des mecs comme Landmark, Rise of the North Star,
enfin,
ça fait longtemps qu'ils sont là, les gars.
Ouais.
Mais à force de, c'est vraiment une phrase bateau, mais à force de travail, d'acharnement, ils ont joué partout dans le monde, enfin, autant qu'on leur proposait des dates, ils les ont toutes prises, entre guillemets. Ils ont joué le plus possible et maintenant ils en sont là, les mecs, quoi. Mm. Mais parce que c'est beaucoup de travail, ça fait 10 ans qu'ils sont là.
C'est ouais, vrai que le chanteur, faut en parler quand même, il est incroyable, parce que là, il y a une partie rappée en français au départ. Sa voix, je pense qu'il peut passer sur un niveau de grave, parce qu'il y a ce truc très, très métal, moi, que j'associe en tout cas au métal de chants gutturaux, là, où ils arrivent à, je sais pas comment ils arrivent
de
à...
De chants gutturaux.
Oui, c'est ça, mais ça parle la gorge,
c'est tellement ça, en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est beau.
Mais c'est des techniques de respiration, de placement, ouais. Et...
Bah, les Mongols, le peuple, hein, bien sûr, fait... non, mais utilise vachement...
Oui, c'est vrai, en plus.
Il y a un super groupe de métal mongol,
je sais pas, The Who.
Ouais, The Who. Et vraiment stylé, ils sont passés sur le Hellfest il y a quelques années, c'était assez fou.
Mais oui, c'est des techniques de chant, de respiration, de vibration, et qui sont assez impressionnantes.
Ouais, et on imagine le travail que ça doit être derrière pour pas se fracasser les cordes vocales à chaque concert
c'est un muscle, mais pour avoir tourné beaucoup avec eux, tu protèges ta gorge, c'est pas le rock, ils sont pas en train de picoler et prendre de la coke. Hein.
Ah ouais.
C'est infusion, miel.
Ah bah tu les connais personnellement du coup ?
Ouais, je les connais bien, ouais. C'est pour ça que je suis pas très très...
Oui, mais sois subjectif, y a pas de souci, on est là
Allez,
pour être
marche.
Subjectif à 100%.
Non, mais
donc, du coup, c'est les connards.
Mais on les aime bien quand même.
Ah non, mais je suis curieux de savoir, du coup, oui, pendant une tournée,
par exemple,
ils vont vachement préserver les cordes vocales, pas de cigarettes, pas de...
Après, chacun a ses petits temps, hein, mais oui, c'est des mecs, ils ont des écharpes, ça hésite pas à prendre des infusions, boire du thé, à faire attention à sa gorge.
Ouais, donc, ouais.
C'est pas le rock'n'roll, à tracher les chambres d'hôtel,
non.
Et à boire des litres de Jack.
En plus, tu le dis, c'est énormément de travail, c'est parce que c'est vrai qu'on a tendance à imaginer le rock des sales gamins qui font un peu n'importe quoi, au contraire. En fait, c'est des gens qui travaillent énormément sur chacun de leurs sons.
Mais carrément, c'est pareil pour tous les autres gros groupes. Hein. Par exemple, Slipknot, etc., etc. Enfin, les mecs, c'est des brutasses. Hein. Ils font que bosser, bosser. Et je trouve que ce côté un petit peu alcoolo, je suis pas bien dans ma vie.
Slipknot, c'était ça au début. Hein.
Oui,
t'écoutes la voix dans les premiers albums, tu fais qui c'est qui a recruté Joe Clodo là.
Oui, mais tu vois qu'en fait ils se sont professionnalisés entre guillemets et tous ceux qui ont un petit peu avaient ce côté un petit peu très chétan, très négatif en eux, où ils sont morts. Et je trouvais que c'était beaucoup relié au grunge un peu plus, tu vois, rock par exemple Alice in the Chain, Audioslave avec Chris Cornell, même Chris Bennington de enfin Bennington, putain, mais c'est même pas ça en plus son nom.
Qu'est-ce qu'il raconte ?
Bref, de Linkin Park, etc. Si c'est Bennington, Chester Bennington. Ouais. Ils étaient tous ultra, ils allaient pas bien et ils étaient drogués, ils faisaient des trucs et aujourd'hui bah ils sont plus dans de ce monde pour vraiment le, et ceux qui aujourd'hui sont encore là, c'est ceux qui avaient quand même à un moment donné bon bah t'as eu Deftones où le chanteur a eu il est tombé un petit peu dans une sorte de dépression, mais aujourd'hui s'ils sont là et qu'ils chantent aussi bien et qu'ils sont aussi bien dedans, c'est juste parce qu'ils ont une hygiène de vie et ils sont c'est des pros, quoi. C'est...
Oui, ils ont réussi à sortir de cette image, de ce qui donnait à l'époque, de ce côté écorché, ce côté émotif. Ils en sont sortis aussi personnellement, dans leur vie personnelle, à avancer dans leur vie en tant qu'adulte, et sortir de la dépression, de l'alcoolisme, de la drogue, peut-être même un petit peu
tout en
même temps.
Ça a tué Lenny, hein, de Motorhead.
Il a duré quand même.
Et il a quand même beaucoup trop duré pour tout ce qu'il prenait.
Ouais, c'est vrai qu'il y a certains, quand on les voit tenir dans le temps, certains rockers, quand on sait tout ce qu'ils se sont mis dans le pif, c'est toujours une surprise de les voir sur scène. Toujours.
Moi, ça m'étonne de voir que Motley Crue, ils tournent encore, quoi. Les mecs, waouh, wow. C'est humainement pas possible.
Ah bah, non, d'ailleurs, mais Motley Crue, question, vous avez aimé le film ou pas ?
The Crue ?
Ouais.
Ah bon, j'ai adoré, ouais.
Ouais, mais moi, je l'ai trouvé surprenant. Bah, je connaissais pas le groupe, j'ai découvert dans ce film-là, et c'est vraiment la vie rock comme on l'imagine pour le coup dans le film. Eux, c'est sur chaque date de chaque tournée, c'est la chouille, quoi. Genre, c'est alcool, drogue et compagnie jusqu'au concert d'après.
Je sais pas,
quoi,
comment ils ont pu faire.
Bah, en fait, je pense qu'il y en a, ils ont une génétique. Hein. Clairement, il y en a, ils ont une génétique. Ou même si il y a un organe qui lâche, il y a l'autre qui prend le relais. Je sais pas
quoi. C'est ça, ils ont des reins qui font le style, qui font poumon, parce que je comprends pas comment ils ont tenu.
Non, c'est ouf. Hein,
quand t'as bu deux bières de trop, t'es là.
Ouais.
Ah, je peux pas aller travailler.
Ouais, c'est
bah,
ça,
surtout que nous, on a la trentaine maintenant, donc on le comprend. Ouais, c'est ouais. Ça. Moi, je fais un excès, c'est terminé.
D'ailleurs, j'aurais dû ramener mon petit coussin. Je commence à avoir mal.
J'ai l'imbago.
Non, mais c'est vrai, on sent la vieillesse qui tape fort. Et moi, trois pintes, et ça y est, pendant trois jours, je suis plus trop efficace. Bon. Je sais pas comment ils
Après, peut-être qu'on n'est pas tenu non plus par un groupe qui rassemble des millions d'écouteurs et on joue pas dans un stade demain soir, donc peut-être que je n'ai pas cette adrénaline pour me,
c'est vrai
me
que
sortir.
La... Non, mais l'adrénaline aussi ouais, joue beaucoup. Hein, ce côté un petit peu, bah, tu sais, c'est comme quand tu fais du stand-up ou d'autres trucs comme ça, t'as une certaine adrénaline où en fait, quand tu es sur scène, au bout d'un moment, t'es. Si t'as mal au cul ou mal à la jambe ou mal à...
Ça n'existe plus, ça, je suis d'accord. Dans le stand-up, je le vis à chaque fois, même quand je suis au plus bas, j'arrive sur scène et pendant le temps de la scène, le corps il prend le relais. Il y a un truc magique qui fait que l'énergie elle est. Mais après, pour le coup, ça redescend.
Après, je mets deux semaines à m'en remettre, quoi.
Ouais, non, mais ça redescend aussi vite que c'est monté. C'est-à-dire qu'après, sûr, ouais. Tout revient, tu peux y aller avec de la fièvre et tout, tu joues, ça se passe.
Je pense qu'il y a
mais...
des artistes et tout qui arrivent tellement à gérer ça, quoi. Tu vois, genre, et en fait, juste les mecs qui redescendent jamais, quoi. Ils sont juste tout le temps défoncés ou tout le temps machin. Et après, bah, t'as des brutes de travail qui ont, qui sont sortis de ce cercle. Je suis en AVC en fait depuis le début de l'émission.
Il est là et
ça va partir. Hein.
Mais voilà. Ça serait peut-être pas la fin de l'émission. Hein.
Ça c'est tous les excès.
Ça c'est du rock, ça.
Ça c'est rock.
Ça c'est
mourir
rock.
En pleine émission. Je suis sûr que c'est déjà arrivé, mais ça doit être trop bizarre.
Ouais, ça doit être sympa. Écoutez l'enregistrement en tout cas. Du coup, on finit sur quoi cette émission ?
Eh ben, on va finir sur Deftones, qui sont en fait les précurseurs, les papas de cette émission.
Mais qui sont toujours bien présents et qui ont fait encore beaucoup parler d'eux cet été avec la sortie du 10e album studio et qui est unanimement salué par la critique, autant par les fans. Après, ils ont perdu beaucoup de fans depuis les débuts, mais ils en ont gagné tellement d'autres avec l'évolution de leur style. Ça n'a plus rien à voir maintenant avec ce qu'ils faisaient au début. Maintenant, c'est ambiance, c'est de la shoegaze, mais en même temps, ça joue sur des 8 cordes, le son est très lourd. Mais il y a toujours cette voix de Chino Moreno, très suave, très...
On dirait qu'il
Il est érotique, le mec, en fait.
Ouais, mais on dirait qu'il est...
Il te chuchote.
Il est fatigué quand il chante.
mais en même temps, il a envie de te faire des trucs.
Ouais, c'est ça. Il se colle à toi, comme ça.
On sent que vous êtes émus. On sent deux rockers bien émus dans ce studio.
Oui, on a un cœur.
Ouais, c'est vrai, on a un cœur.
Bah écoutez, on
mais ça reste des sacrés connards quand même.
J'allais dire, on va rester sur cette belle phrase, mais il fallait que tu salopes ça, Maokino, mais c'est ça le rock qu'on aime beaucoup. Ben, mais en tout cas, merci d'être venu dans.
Bah, ça
dans
fait plaisir.
Pour parler de ce genre que j'ai découvert aujourd'hui grâce à vous. Maokino, on se retrouve sur une prochaine. T'as déjà le thème ou pas?
Non.
Ah, ok. Non, ça, c'est le rock, ça.
T'attendais une exclue?
Non, en vrai, franchement, si, j'ai une émission que j'aimerais bien faire. J'ai découvert dernièrement des petits groupes un petit peu cachés. Alors, j'aimerais mettre en avant certains artistes, mais surtout des artistes qui ont sorti un album un peu dans les années 70-80 et qui sont aujourd'hui ultra écoutés. Et qui sont, je pense, même eux pas au courant, qui sont super écoutés. Ouais.
Sixto Rodriguez, on arrive.
Alors, ouais, mais Sixto Rodriguez, il y a eu quand même une sorte de revival où le gars a tourné.
Ah, Sugarman, ouais, bien
sûr. Ouais, et il était là, documentaire superbe. Donc, non, là, c'est vraiment. Vraiment, je suis tombé des fois sur des trucs où j'ai eu l'impression que dans les années 70, il y a eu un après Beatles où les maisons de disques ont essayé de recréer des Beatles, des Beach Boys et tout, avec des sortes de groupes complètement montés. Et ils ont sorti un album, ça n'a pas marché. Allez, salut. Et en fait, ça a créé ces albums-là un peu mythiques, iconiques. Et j'ai envie de parler de ça.
Ok, génial. Bah, écoute, ça donne envie en tout cas. Ben, merci à toi. Tu officies dans quel podcast, on rappelle pour les auditeurs?
La Brigade Bavarde.
La Brigade Bagarre.
La Brigade Bagarre.
Donc la Brigade Bavarde et donc tout ce qui est autour du cinéma, mais aussi
cinéma,
de la culture,
pop culture, musique.
Eh ben écoute, on ira écouter ça. Vous êtes sur toutes les plateformes?
Toutes les plateformes, n'hésitez pas.
Bah, c'était un plaisir en tout cas, Ben. Merci,
merci à vous, les gars.
Excellente journée. On se laisse donc sur Deftone, Milk of the Madonna. Ouais. Donc, lait de Madone. Allez.